Nous ouvrons le Saint-Livre. Nous allons lire dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 15, le comportement du frère aîné du fils prodigue lorsque il aurait eu à avoir une immense joie d'accueillir son frère. Nous allons voir quelle a été son attitude. Une grande joie était en train d'envahir cette maison. Un enfant, loin de Dieu, revenait à son père qui représente Dieu. Il y a vraiment une joie. Et regardez ce qui se passe dans cette maison. N'oublions pas que c'est Jésus qui parle. Il y a des choses à apprendre. Luc chapitre 15, verset 23. C'est le père qui parle. On va lire à partir du verset 22. Le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé, et n'oubliez pas que c'est signé le Seigneur Jésus. J'aimerais lire notre texte avec vous dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9. Vous pouvez garder cette page parce que je pense qu'on va y revenir. Dans Matthieu, chapitre 9, encore un débat difficile avec les religieux de l'époque. On va lire juste ce que Jésus va leur dire. Matthieu chapitre 9, verset 13, ça suffit avec ce qu'on a lu dans le comportement du fils aîné, mais là c'est un peu le même problème, et Jésus leur donne un conseil qui est pour nous certainement, Matthieu 9, verset 13, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Je le relis s'il vous plaît parce que c'est quelque chose qu'il faut que nous apprenions. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Un petit peu avant, dans le sermon sur la montagne, Jésus donne des lois bibliques merveilleuses. Matthieu chapitre 5, au verset 7, il y a une série de béatitudes qu'on appelle, et celle-ci nous intéresse ce matin, Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc nous avons lu ces trois textes, nous pourrions en lire d'autres, celui de Michée, lorsque Michée, ce serviteur de Dieu, ce prophète, un homme qui a beaucoup avancé. Quand vous lisez les livres, vous voyez la progression des serviteurs de Dieu également. Et lorsque Michée, au chapitre 6, vous pourrez le lire, s'interroge, mais comment adorerais-je Dieu? Il connaît Dieu, mais il veut l'adorer davantage, il veut le servir davantage. Comment lui rendrais-je tous ses bienfaits quand on a été béni? On a à cœur de faire mieux, oui ou non? Quand on a été touché par la grâce, on dit, mais comment je peux le connaître davantage? Et Michée dit, mais comment? Est-ce qu'il me faut offrir ceci, davantage de torrents d'huile, etc.? Il a vraiment un souci de connaître Dieu, parce que vous savez, là, l'Église, Je suis, hélas, trop bien placé pour savoir qu'il y a des gens qui fréquentent les églises depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et non seulement ils n'ont pas fait de progrès, mais ils ont régressé. Et ils écoutent des sermons chaque dimanche. Il y a un problème, et on va en parler ce matin. Et Miché reçoit la réponse de Dieu. Vous savez, demandez, et vous recevrez. Vous l'avez entendu, j'y reviendrai peut-être plusieurs fois dans le sermon, vous avez entendu ce matin une vérité qui est rappelée depuis le calvaire, c'est de la croix que la grâce coule. Et Miché entend la parole de Dieu, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il va l'analyser, vous lirez chapitre 6, chapitre 7, c'est très 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 intéressant le comportement des serviteurs de Dieu. Et puis il se décide à passer une nouvelle étape parce que la vie avec Dieu c'est comme l'école. Et cet homme, bien sûr, va être utilisé par Dieu. Toute cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi parce que chaque prédication est sérieuse. Ça doit amener normalement la pensée de Dieu dans les cœurs de frères et de sœurs et de personnes nouvelles qui découvrent l'Évangile. C'est le seul moyen, n'oubliez pas, pour que des hommes passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est le seul moyen d'aller au ciel que d'accepter Jésus-Christ et de le suivre, et d'être fidèle. Et cette semaine, j'ai été vraiment arrêté, mais vraiment bloqué sur le comportement du fils aîné dans cette parabole. N'oubliez pas, c'est Jésus qui parle. Le fils aîné représente les chrétiens qui sont super carrés au niveau du travail. Je t'ai servi des années sans transgresser tes ordres. C'est tout ce qu'un pasteur attend des chrétiens. Mais voilà. Le problème que cet homme représente les chrétiens qui sont tout le temps à côté de leur père, qui lui représente Dieu, ce père plein d'amour, et qui en fin de compte ne le connaissent pas. N'ont aucune communion. Ça s'est révélé lorsque son frère est revenu. Je me doute qu'il n'a pas souvent dû prier pour le retour de son frère. Puisqu'il était en colère, irrité, il n'a pas voulu rentrer, il était déjà, vous voyez, il était rétrograde il y a longtemps. Mais il n'avait jamais osé quitter la maison du Père, pour certainement des raisons que je ne vais pas prendre le temps d'évoquer ce matin. Mes frères et sœurs, nous courons ce danger. D'ailleurs, quand vous regardez les religieux, les pharisiens, les docteurs de la loi, si on a le temps, on terminera avec la parabole du bon samaritain où Jésus enseigne à ce docteur de la loi, qui en savait plus que tout le monde, ce qu'était vraiment la miséricorde. Alors nous, on n'est pas là pour juger les pharisiens et le frère aîné, et pour le comportement de certains qui n'ont rien compris tout en étant des pasteurs. Parce qu'on peut connaître la parole d'une manière théologique, comme le rappelait le don, et ne pas rien recevoir de la grâce. Ce frère aîné, il est dans une difficulté pas possible. Il se met en colère. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous pensez, vous, quand un rétrograde revient? Qu'est-ce que ça vous fait quand un rétrograde revient à l'église? Ça vous fatigue parce qu'il a pris de mauvais plis? Ça vous énerve pas, les fils prodigues? Non? Mes frères et sœurs, nous devrions quand même réfléchir à notre état d'esprit. Parce que quand même, Dieu regarde au cœur. Vous le savez. Et s'il y avait quelqu'un qui soit dans cette situation, il a besoin d'aide et Dieu l'aidera. Il y a des chrétiens, ils n'ont jamais rétrogressé, ils n'ont jamais transgressé les autres. Vous savez, moi je peux dire, entre guillemets, que je n'ai jamais rétrogradé. Mais je peux vous dire que je me suis souvent trouvé dans la situation du frère aîné. À être irrité par des trucs qui m'énervaient. Et vous savez, c'est pas bien ça. On veut tellement ci, on veut tellement là, qu'on en devient irritant, irritable. C'est pas ça la miséricorde. Et je sais que certains ce matin sont concernés, peut-être même des chrétiens de longue date. Si vous êtes irrité, en colère, parce que l'œuvre de Dieu n'avance pas comme vous le voudriez, etc., etc., moi je vous conseille de bien réfléchir. Mardi, nous avons partagé ce verset qui est présentable comme un commandement, comme une instruction. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Vous connaissez la suite? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. J'ai dit au départ, je l'ai fait un peu exprès, j'ai dit que c'est un commandement. Oui, c'est un commandement. Oui, c'est une instruction. Mais en vérité, ce n'est ni un commandement, ni une instruction. Quelqu'un qui connaît Dieu, il a compris que c'était une invitation. C'est une immense invitation. de s'approcher de Dieu. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions que quand même si nous ne sommes pas tous arrivés peut-être à des niveaux spirituels élevés, il n'empêche que nous pouvons, par simple comparaison, comprendre dans quel état nous sommes. J'avais mis en comparaison Enoch, la foi d'Enoch, qui avait décidé de marcher avec Dieu. J'étais juste avant le déluge. Croyez-moi, il ne faisait pas bon vivre sur terre. Eh bien, cet homme, il a décidé de marcher avec Dieu. Ça a tellement plu à Dieu qu'avant le déluge, Dieu l'a enlevé. Pourquoi ? Parce qu'il représente les chrétiens qui, avant que la colère de Dieu ne vienne sur la terre, seront enlevés parce qu'ils rendront ce témoignage qu'ils sont agréables à Dieu. Et je crois qu'au milieu de nous, ce que nous avons déjà besoin, déjà entre nous, c'est que nous soyons agréables à Dieu les uns les autres. Oui ou non ? Un chrétien, il ne cherche pas, il ne fait pas la comédie, le chrétien, avec les païens, pour montrer que c'est un chrétien. Je crois que déjà entre nous, nous avons le plaisir d'être agréables à Dieu. Et franchement, moi je m'interroge beaucoup, parce que je veux avancer aussi, parce que vous me voyez comme un pasteur, mais moi je me vois comme un simple chrétien, et je suis qu'un simple chrétien qui prêche. Et je peux vous dire que je m'appliquerai à aider ceux qui sont dans cette situation de fils aîné. Parce que je crois que l'Église, elle est belle lorsqu'elle apprend la miséricorde. Vous êtes d'accord ? Heureux les miséricordieux. Alors, il faut parler de la miséricorde. C'est quoi la miséricorde ? Qu'est-ce que j'ai compris de la grâce, puisqu'on a partagé ce verset, cette invitation, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance pour obtenir grâce, miséricorde et secours. Parce que vous avouerez que c'est extraordinaire d'attraper la miséricorde de Dieu. Mais c'est aussi quand même inquiétant de voir qu'on peut être à côté de quelqu'un qui est bien, être à côté du Père et ne pas changer. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça ? Comme quoi, on peut être à côté de quelqu'un qui rend un très bon témoignage, ce n'est pas pour ça qu'on va être automatiquement influencé. Si on ne veut pas, on ne changera pas. Et le Fils aîné représente vraiment tous ces chrétiens, je le répète, parce que c'est vrai, et nous avons vu beaucoup de dégâts dans les églises, de croyants qui, tout en étant dans l'église, parce que quand même, si vous ne le croyez pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre conversion, mais lorsque deux ou trois chrétiens sont assemblés dans le nom de Jésus, il nous a promis qu'il serait au milieu de nous. Et non seulement ça dans le cadre des réunions publiques d'église, mais également lorsque nous sommes tout seuls, nous sommes quand même le temple du Saint-Esprit, dont Dieu nous accompagne tout le temps. Et ce n'est pas pour ça que nous changeons, parce que c'est très 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 facile de juger le fils aîné, et je pourrais vous donner des éléments pour le juger encore plus. Mais on n'est pas là pour juger un gars qu'on n'a même pas connu, c'est-à-dire que c'est une parabole, mais c'est pour que nous comprenions bien que ce n'est pas parce qu'on est à côté de Dieu toute la journée qu'on va changer. Et normalement, l'irritation, la colère, la jalousie, la bouderie, il y a des gens comme ça. Peut-être que vous n'en connaissez pas, mais je vous assure que ça existe. Des gens qui sont tout le temps en train de râler. Vous n'en avez jamais vu ? Mais c'est bien. Mais on peut quand même réfléchir à notre comportement. Les invitations devraient nous permettre de dire, mais au fait, moi, c'est que dernièrement, on me parlait d'une personne qui est dans l'Assemblée, qui est toujours en train de râler. Toujours en train de râler. Elle prie, toujours en train de râler. Pourquoi il n'y a pas ça ? Pourquoi il n'y a pas le réveil ? Pourquoi... Mes frères et sœurs, quand le Seigneur vous a touché de sa miséricorde, c'est incroyable comment votre cœur devient plein d'amour pour les autres. C'est incroyable. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors la miséricorde, qu'est-ce que c'est ? J'en ai déjà parlé. La grâce et la miséricorde. Il y a des gens qui mélangent les deux. Ce n'est pas de votre faute, c'est la nôtre. Je le sais. Alors je vais rappeler ce qu'est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Personne ne mérite le salut. Vous êtes d'accord ? Personne. Personne. Même le meilleur des croyants ne mérite pas le salut. On est tous des pécheurs, on est tous voués à l'enfer. Mais Dieu nous fait grâce par le calvaire. Donc, Dieu nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est ça la grâce. C'est-à-dire que tout le monde peut obtenir le salut, s'il se repent.
La miséricorde, ce n'est pas la même chose. C'est l'inverse, en fin de compte. Nous mériterions sa colère, nous mériterions des punitions, le jugement, certaines corrections, mais Dieu ne nous les donne pas. Pourquoi ? Parce que Dieu est miséricordieux. C'est bien résumé dans le psaume 103, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, Dieu ne nous punit pas selon nos iniquités. Vous avez compris, la grâce, Dieu me donne ce que je ne mérite pas, le salut. La miséricorde, Dieu ne me donne pas ce que je mérite. C'est clair quand même, cette fois-ci. Bon, je suis sûr que c'est clair. Alors, si on lit superficiellement, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde, on pourrait dire, bon, mais il suffit d'être gentil. Écoutez bien, mes frères et sœurs, on n'est pas là pour avoir un beau sermon, on est là pour faire des progrès et s'approcher du trône de la grâce. Parce qu'on pourrait, on pourrait le simplifier, ce verset. Eh bien, soyez gentils les uns vis-à-vis des autres, soyez gentils et les gens seront gentils. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. En plus, il y a des versets dans la parole de Dieu qui sont véritablement réels par rapport à des lois, les lois de la semence. Ce que vous semez, vous le récoltez. Certains ont utilisé certaines de ces lois justement pour détourner la doctrine. Il faut donner, et il vous sera donné. Mais donnez beaucoup, et il vous sera beaucoup donné. Donnez beaucoup d'argent, et la semaine prochaine, vous roulerez un Ferrari. Alors, ça, je savais que ça allait vous faire sourire. C'est vrai qu'il y a des lois que lorsqu'on donne, Dieu bénit. Mais, mes frères et sœurs, ce n'est pas des lois mécaniques. Et c'est vrai qu'un chrétien, il aime donner. Il a besoin de donner. Mais soyons intelligents. On va parler de la personne qui a été le plus miséricordieuse sur la terre. Vous savez qui c'est ? Qui c'est la personne qui a été la plus miséricordieuse ? Bon, vous le savez, c'est le Seigneur Jésus. S'il y en a bien quelqu'un qui a manifesté de la miséricorde, c'est Jésus. Il n'y a pas de meilleur exemple. D'accord ? Comment il a été miséricordieux ? Ce qu'il a voulu nous apprendre au travers de ce qu'il a vécu, au travers de ce que les gens ont vécu lorsqu'ils étaient en contact avec lui. Lorsque les pharisiens, très 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 spirituels, ont amené cette femme en flagrant délit d'adultère, prise en flagrant délit d'adultère, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Franchement déjà, on se demande pourquoi ils surveillaient ça. Et qu'ils amènent cette femme au pied de Jésus avec cette certitude, voilà, cette femme elle a péché, la loi dit qu'il faut la lapider, eh bien lapidons-la. Et toi qu'est-ce que tu dis ? Et Jésus, vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est abaissé, il a écrit, il leur a dit que le premier qui est sans péché, jette la première pierre. Et tous, du plus vieux jusqu'au plus jeune, accusés dans leur conscience, eh bien, se sont éloignés. Et Jésus aurait pu dire, écoutez-moi bien, frères et sœurs, je suis sérieux, ne riez pas. Hein. Jésus aurait pu dire d'ailleurs à eux, ne partez pas. Et à cette femme, moi, je peux la lapider, parce que moi, je suis sans péché. Est-ce que Jésus aurait pu la lapider ? Et personne n'avait rien à dire. Il était le Seigneur, et je veux dire, c'était la transition entre la grâce, la loi et la grâce. Personne n'aurait pu rien dire. Il aurait pu montrer par là qu'il était le Fils de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est évident. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il enseigne par là que sa miséricorde pardonne les pécheurs. Alléluia. Ce que nous avons certainement vécu lorsque nous avons été au calvaire. Prenons le cortège funèbre dans la ville de Naïm, vous savez, un jour, comme par hasard, Jésus avec ses apôtres croise une pauvre maman, veuve, qui enterrait son fils unique. Et Jésus s'approche, qu'est-ce qu'il fait ? Tout le monde s'arrête, il touche le cercueil. Et il dit à ce fils de se lever. Voilà, un truc super simple. Et le mort ressuscite. Et tout le monde, je pense, devait quand même se réjouir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de montrer qu'il accorde la miséricorde dans le deuil et dans la souffrance. Alléluia. Et quand on pourrait passer la matinée, même, non pas la matinée, la journée, vous voyez ? On pourrait passer la journée et voir combien Jésus a manifesté de la miséricorde. On va prendre un autre exemple différent. Lorsque Jésus est en train d'enseigner des gens, et tout d'un coup, il y a des parents qui ont compris, ils ont vu à force, des parents qui amènent leurs petits pour que Jésus bénisse les enfants. Vous connaissez cette affaire. Et ça agace les apôtres, qui sont dérangés dans ce moment où Jésus est en train d'enseigner. Ça les agace et je dis, mais repousse-les, qu'ils en aillent. Et Jésus leur dit, mais non, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et il les bénit. Et il les bénit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la miséricorde de Dieu, elle est aussi pour les enfants, pour les plus faibles en tous les cas. Etc. 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 S'il y en a bien quelqu'un qui a exercé la miséricorde, c'est notre Sauveur. Est-ce qu'il a obtenu miséricorde? Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rejeté. Et on l'a crucifié. Vous êtes d'accord? Alors tout ça pour dire que la miséricorde, bien sûr que le Seigneur est le roi des rois et qu'il est miséricordieux et qu'après sa résurrection, non seulement la miséricorde, la gloire et l'éternité fera que notre Seigneur sera couronné de gloire et d'honneur. Bien sûr qu'il a obtenu miséricorde. Mais ce n'est pas parce qu'on est miséricordieux qu'on obtient miséricorde de suite. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Quand Lucas rappelait tout à l'heure dans ce chant « L'épreuve et la joie nous viennent de toi », c'est clair que toutes les épreuves, Dieu peut les utiliser. Si c'est l'épreuve de la foi, si les épreuves sont les épreuves vécues par la foi, Dieu peut toutes les utiliser pour nous faire faire des progrès. Jésus a été rejeté et crucifié malgré le fait qu'il a été profondément miséricordieux. La miséricorde est une vertu qui n'appartient qu'à Dieu. C'est pour ça que ce matin, avant de commencer le moment de culte, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons ébauché le psaume 30-36. Il y a 26 versets dans ce chapitre. Et chaque fois que le psalmiste énonce une vérité, il dit « car c'est à toi qu'appartiennent la miséricorde ». Et vous lisez-le, le psaume. Et ce psaume, la première fois que je l'ai lu, franchement, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce psaume? Parce que, et Dieu tua les rois, car sa miséricorde dura toujours. Je me suis dit, alors ça, moi je ne comprenais pas. Vous avez lu le psaume? Il a tué des rois, car sa miséricorde dura toujours. Et j'ai compris, mais qu'après c'est facile à comprendre. Dieu protège son peuple. Vous le croyez que Dieu vous protège? Le psaume, si on le lit d'une manière intellectuelle, on ne va pas tout comprendre. Mais si vous comprenez combien Dieu est à un plan, Dieu veille sur l'Église, à condition que nous ne sortions pas de la cour. Il vaut mieux rester à l'abri en ce moment, croyez-moi. Donc la miséricorde appartient à Dieu, c'est une vertu que les hommes ne peuvent pas recevoir de la terre. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Quand il est dit sans cesse, 26 fois, et ailleurs, on n'a pas le temps de prendre tous les textes. Mais on le voit souvent, c'est à toi qu'appartient la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Vous pouvez dire amen, oui. Dieu donne la miséricorde. Vous le croyez, frères et sœurs? Et c'est là que certains chrétiens auront l'honnêteté de se dire, mais c'est clair que moi, je n'ai pas obtenu miséricorde, je suis tout le temps en train de critiquer. Bienvenue au club des frères aînés. Si vous en êtes là, mais demandez à Dieu, demandez au Seigneur. Vous l'avez entendu, une énième fois par un don spirituel de la croix, la grâce coule. Il y a à disposition de tous les chrétiens une grâce inépuisable. Alléluia. Tout ce que Dieu veut vous donner, tout ce que Dieu veut nous donner, nous pouvons l'avoir. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est que vous... Soyez honnête. Ne jouez pas comme ce docteur de la loi, parce que vous avez vu comment les docteurs de la loi ont essayé d'éprouver Jésus. Parce que je suis sûr, en plus, que chaque fois que ces gens s'approchaient de Jésus pour l'éprouver, ils essayaient d'éprouver Jésus, vous voyez. Je suis sûr qu'ils ont été convaincus de péché, plus ou moins. Ce n'est pas possible de s'approcher de Jésus et de ne pas être convaincu du péché quand on est dans un mauvais état d'esprit. Ce n'est pas possible. Mais eux, ils renchérissaient. Et ils en ajoutaient. pour essayer de se justifier. Ils auraient dû dire, quand le docteur de la loi a essayé d'éprouver Jésus par rapport au commandement, par rapport à la loi, tout, franchement, quand on connaît bien maintenant le Seigneur, c'était ridicule. Et en contact avec Jésus, ils auraient pu dire, mais si ce docteur de la loi avait dit, mais Seigneur, aide-moi, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus? Mais il aurait aidé. Le problème, c'est que nous pouvons juger facilement ces docteurs de la loi à cause de leurs propos raides, mais sans nous en rendre compte, nous pouvons passer à côté de la miséricorde. Et Jésus le dit. Donc, ce sont des choses que nous devrions apprendre. S'il y a des choses que nous apprenons par révélation, comme Gérard Marinus rappelait comment Paul a reçu par révélation la compréhension de la Sainte Cène, il a dit « j'ai reçu du Seigneur ». Mais vous voyez plein de fois dans la Bible cette affaire « apprenez ». Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, est-ce que je suis prêt à apprendre ce que signifie la miséricorde? Dieu voit comment vous répondez, parce que vous ne me répondez pas et vous n'avez pas à répondre à haute voix, ça ferait désordre. Mes frères et sœurs, si je vous pose une question, en même temps, Dieu voit exactement comment vous réagissez. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de dire, mais c'est clair, je veux apprendre la miséricorde. Et ça viendra de la croix, je ne vais pas répéter le don spirituel, tout vient du calvaire, tout vient dans la présence de Dieu. Tout vient dans la communion avec le Seigneur. Même si ça s'apprend, ça se reçoit après, par la grâce du Seigneur. La croix doit agir dans nos cœurs. Quelqu'un qui s'approche du trône de la grâce, la croix agit. Cette révélation de la croix devient sérieuse, de plus en plus sérieuse. Les années passent et la révélation et la connaissance ne s'étiolent pas. Bien au contraire, quelqu'un qui a 10 ans de conversion, allez, donnons un exemple, il est 10 fois plus reconnaissant que quelqu'un qui a un mois de conversion. Quelqu'un qui a 30 ans de conversion, il est rempli 20 fois plus. Est-ce que vous me croyez? Si votre communion avec Dieu est réelle, c'est exactement ça ce qui se passe. Jésus a laissé cette parabole. Alors, on pourrait peut-être la survoler, car quand même, elle est là, dans Luc au chapitre 10. Mes frères et sœurs, c'est ça que Dieu attend. Je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu, mais il y a des choses que Dieu attend de vous. Peut-être que vous êtes au cours préparatoire, que vous devriez être en quatrième ou en terminale. Vous avez redoublé le cours préparatoire 15 fois. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de redoubler? Ben oui, c'est possible. On peut redoubler 30 ans. Il y a des, mais je vous le dis, et pas avec mépris, parce que le mépris, c'est un péché. Et quelqu'un qui méprise un frère, la Bible dit que ses prières ne seront pas exaucées. Donc, laissez-moi vous dire, ce n'est pas du tout avec mépris. C'est presque avec humour que je vous dis que c'est dommage, mais quand même, le Seigneur a laissé des éléments, comme l'irritation, la colère, la bouderie, etc., pour indiquer... les personnes qui n'ont pas obtenu miséricorde, même si elles n'ont jamais transgressé ses ordres. J'aurais aimé le voir comment il labourait. Je serais curieux, je veux savoir, au ciel je le saurai, comment il allait labourer. Et c'est vrai qu'un œil extérieur pouvait dire, franchement, l'autre là-bas en train de boire. Bien sûr que tous les deux sont en braque. Et l'autre sur son tracteur en train de labourer, mais c'est quel le plus rétrograde des deux? C'est ça. Il faut y réfléchir. Apprenez ce que signifie la miséricorde. Jésus l'a dit, vous savez, venez à moi et vous trouverez du repos. Apprenez de moi. Mais ça ne s'apprend pas comme ça avec une prédication. Ce n'est pas ma prédication qui produira du fruit. Si les prédications devaient produire le fruit, il y a longtemps qu'il y aurait eu un réveil sur la terre, je vous le dis. Ce qui produit le fruit, c'est la communion avec Dieu. C'est que cette prédication génère un peu plus de communion avec Dieu. La prédication n'amène pas le but. Le but, c'est la communion avec Dieu, mes frères et sœurs. Donc, dans cette parabole, Luc 10, vous voyez, un docteur de la loi, c'était des gens qui connaissaient la parole par cœur. Mais voilà la preuve, on a là, une fois de plus, que c'est un frère aîné, aucune communion. Ils n'ont même pas reconnu Jésus. Ils n'ont même pas reconnu lorsqu'il était là et qu'il faisait les miracles. Alors qu'il y a des gens comme Anne, vous comprenez Anne ? Ou Siméon, quel âge avait Jésus quand ils l'ont reconnu? Aidez-moi. Quel âge avait Jésus? 6 ans, 12 ans? Vous vous rendez compte? Il avait 8 jours. 8 jours. Ils l'ont vu dans les bras de Marie. Ils ont su que c'était le Messie. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est des gens qui avaient obtenu la miséricorde. Vous comprenez? Et les pharisiens, les docteurs de la loi qui connaissaient la parole de Dieu, sur les ongles. Je peux vous dire qu'à pour arriver à être docteur de la loi, il fallait connaître les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Ils se pensaient autorisés à coincer Jésus. Ils ne l'ont même pas reconnu. Et je suis sûr, comme je disais tout à l'heure, je le dis parce que c'est sérieux, je suis certain que quand ils étaient dans sa présence, ils étaient convaincus de péché. Mais ils s'endurcissaient dans leur dureté. Regardez cette part, on va la lire en entier. Luc 10, verset 25, je pensais la résumer, mais quand même, il vaut mieux la lire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Mais qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais regardez, comme il n'avait pas réussi, lui, à aimer, il pose une question pour essayer de coincer Jésus. Ben, c'est comme ça que je le vois. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, donc non, un étranger, voyez, pour les juifs, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, eh bien, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Et cet homme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, en tous les cas, il aura eu sur la terre, malgré son arrogance, il aura eu la joie de se trouver devant Jésus et d'entendre ce qu'il avait à faire pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et c'est exactement le point de notre rencontre. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Parce que le prochain, il faut aimer son prochain. Bon, le prochain, c'est qui? C'est mon voisin. Bon, le prochain, c'est celui qui est le plus proche de moi. Si je suis un petit peu logique, bon, mon prochain, le plus proche, c'est Timothée. C'est mon prochain. Donc, je dois aider Timothée. Timothée, c'est réciproque. Le prochain, c'est mon voisin. Mon voisin, mais c'est pas ça que ça fait. Le voisin, il peut en avoir rien à faire de l'évangile. Vous comprenez ce que je veux dire? Votre voisin, vous pouvez lui parler du Seigneur, il s'en fiche carrément. C'est pas le prochain, c'est pas la personne la plus proche de vous, même si physiquement c'est le prochain. Mais ça ne veut, c'est pas ça que ça veut dire. Et pour pouvoir faire ce que Dieu veut que nous fassions, que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces, même si on est super gentil, le Seigneur n'a pas dit aux gens « soyez gentils », le Seigneur il a dit « soyez miséricordieux ». La miséricorde ne peut venir que de Dieu, donc il est absolument nécessaire, c'est la suite de mardi, que je m'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Et si je ne suis pas miséricordieux, eh bien on ne va pas s'autoflageller et se faire du mal et se condamner. On ne va pas jouer les frères aînés, on va se dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, moi je reconnais, je suis tout le temps en train de râler, de bisquer, tout ça. Je suis en train de fatiguer tout le monde. Les gens, ils n'osent plus me le dire tellement je vais m'énerver. Parce qu'il y a des gens, on n'ose même plus leur parler. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça vous est jamais arrivé de dire, mais en plus, c'est biblique. Évite les discussions vaines et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Je ne pense pas vous enseigner grand-chose. Mais ce que je voudrais que nous comprenions, c'est qu'il y a quand même une véritable béatitude sur la miséricorde. Heureux les miséricordieux. Et nous sommes dans des temps tellement malheureux que c'est beau quand même de voir dans une église des gens qui exercent la miséricorde. Des gens qui s'interrogent, comme le prophète Michée, des gens qui nous enseignent, comme le Seigneur Jésus l'a si bien fait. Et l'enseignement est inépuisable. Vous le croyez que la parole est inépuisable? Moi, j'ai vu des chrétiens qui disent, moi, je ne lis plus les évangiles, moi, je les connais par cœur, je n'ai plus besoin de lire la Bible. Bon, vous voyez, moi, la première fois, je croyais que la personne elle riait. Je croyais qu'elle, vous savez, des fois, on blague. Je croyais que la personne elle blaguait. Je dis, mais vous êtes quoi en train de... Mais non, je vous assure, je ne lis plus. C'est des gens qui n'ont rien compris. Mais après, le problème, c'est le fruit. C'est le fruit. Donc, le prochain, quelle est la prochaine situation à laquelle je devrais m'intéresser? Vous voyez, tout à l'heure, avec le conseil d'administration, je peux vous dire qu'on va avoir une situation qui a deux caractères. J'ai besoin de conseils pour que l'Église puisse aider une autre Église. C'est une église qui est peut-être à 300 kilomètres, mais je peux vous dire que pour nous, c'est notre prochain besoin, celui que Dieu met dans l'église. On nous a aussi, par exemple, je donne des exemples, c'est pour que vous compreniez. On nous a demandé d'aider un couple qui est dans une grande difficulté, il a besoin, pour nous, ça nous fait, pour certains, ça les fait peut-être rire, mais pour lui, c'est vital, cette personne a besoin de 309 euros. Vous voyez, ça fait partie des choses qui se présentent dans l'Église où le Seigneur peut nous tester. Vous voyez, on est nombreux, on met un euro chacun, le problème est réglé dans le tronc. Oui ou non? On va le faire. On va aider la personne. Mais nous devons... Voilà, là, c'est des petites étapes, c'est des choses qui se présentent comme ce Samaritain. Alors, c'est vrai qu'on pourrait... Moi, je pourrais, c'est, sérieusement, je le dis avec humilité, mais je pourrais avec facilité me faire l'avocat du sacrificateur et du lévite. Pourquoi? Parce que dans le Lévitique, on voit bien qu'il est interdit de mettre du sang d'un homme sur un âne, etc. Alors eux, connaissant la loi par cœur, vous comprenez ce que je veux dire? Vous lirez dans le Lévitique 15, votre livre préféré, et vous vérifierez que peut-être, ils ont dit, mais non, on ne peut pas mettre cet homme blessé sur un animal. C'est pour cela qu'il faut comprendre la pensée de Dieu. Vous voyez, je veux pas. Vous voyez, il serait content si c'était là. Mais ce que je veux dire, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes dans le temps de la grâce et que nous devons veiller à obtenir cette miséricorde. Parce que si nous n'obtenons pas miséricorde, nous allons devenir des frères aînés de ces religieux qui vont abîmer le corps de Christ, tout en pensant n'avoir jamais transgressé les ordres. Moi, j'ai été dans ce cas-là. J'ai été légaliste. J'ai été dur. J'ai été... Parce que oui, parce que moi aussi, je pourrais dire, mais moi, j'ai jamais rétrogradé. Alors, ça fait bien ou ça fait pas bien de dire ça? Ça veut rien dire. Vous avez la preuve. Ça veut rien dire. Mais je sais une chose. C'est qu'un jour, on va tous passer devant le Seigneur. Alléluia. Et je pense que ça serait bien peut-être de lire un dernier verset. Dans l'épître de Jacques, il y a quand même un verset, un beau verset, un verset merveilleux. On va prendre deux versets. Dans Jacques, d'abord, quand même, c'est un verset qui devrait tous nous faire... plaisir et encourager à dire, mais Seigneur, parce que quand je vais passer devant Dieu, je serai mesuré avec la mesure que j'ai utilisée. Même si on se doit de juger le péché. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez fait attention, la semaine dernière, peut-être le frère, il est là, il y a un frère de passage qui était là et qui a prié pour son frère qui est mort. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Il a prié pour son frère qui était mort d'un AVC. Vous vous rappelez? Bon. Moi, je veux être miséricordieux et intelligent. Ce qui n'est pas toujours le cas, ça vous l'avez vérifié. Et je me suis dit, tu le reprends pendant les annonces? Tu le reprends après? Parce que pendant les annonces, pendant la prédication, s'il est là, il ne va pas comprendre mon souci de la droiture, dont je lui ai dit après. Je crois que je l'ai vu ce matin, vous voyez là. Peut-être que si je l'avais repris, vous voyez, cette miséricorde, mais est-ce qu'il faut le reprendre quand même? Est-ce qu'il faut le dire qu'il ne faut pas prier les morts? Bien sûr. C'est une abomination. Mais voyez, moi je demande à Dieu cette grâce, cette miséricorde, parce qu'on m'a eu reproché des fois de dire, oui, monsieur, vous avez dit ça, vous auriez peut-être pu attendre. Et les gens, je suis sûr qu'ils avaient raison. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de faire des progrès. Donc, lisons ce verset, parce que quand même, il déterminera le moment où nous passerons devant Dieu d'une manière catégorique. Jacques 2, verset 13. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de ce verset. Alors, en plus, c'est un texte où il nous est demandé d'être carré avec la doctrine, etc. Mais en même temps, Jacques 2, 13, « Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire. Hein. Au contraire, au contraire. Dans une église, on veille les uns sur les autres. Et si des gens sont dans le péché et qu'on l'apprenne, il faut les aider. Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné, mes frères et sœurs. Mais il faut apprendre. Et il y a des choses que vous apprendrez. Je l'ai dit 50 fois, vous l'apprendrez par un livre, vous l'apprendrez par un cantique, vous l'apprendrez par un don spirituel, vous l'apprendrez par un pasteur qui prêche la parole, vous l'apprendrez en lisant la Bible ou vous l'apprendrez par révélation. Mais Jésus, c'est simple, il dit à ces gens, voyez, il les a pas cassés, comme on dit aujourd'hui, il les a mis sur la voie. Apprenez ce que signifie la miséricorde. À qui je ressemble? Est-ce que je ressemble à ces gens qui font plaisir à Dieu? Parce qu'il y a quand même plusieurs fois plusieurs textes. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec une concordance. Vous pouvez prendre les textes où il est dit « c'est à telle chose que Dieu prend plaisir ». Ça vous intéresse de faire plaisir à Dieu? Moi, oui. Mais il faudrait aussi avoir cette intelligence de savoir si votre comportement déplaît à Dieu. Parce que ça va pas vous aider. Et vous allez rétrograder, même si, à moins que vous le soyez déjà. Il faut apprendre. Regardez, on va terminer avec Tite. Un peu avant, il y a Hébreux, et avant Hébreux, il y a Tite. Tite, c'est un homme qui a beaucoup avancé. Je suis en train de faire une étude pour les frères et les anciens. Comment le Seigneur a amené cet homme à faire ce qu'il a fait? Donc, dans Tite, on va lire le verset 14 du chapitre 3. On va terminer avec ça, mais je voudrais, mes frères et sœurs, que nous soyons conscients que si nous tenons devant Dieu, nous obtiendrons miséricorde. Vous rendez compte si tous ici, nous apprenions ce que signifie la miséricorde? Qu'est-ce qui se passerait dans quelques jours, dans quelques semaines? Réfléchissons un instant. Dans une église où nous, vraiment, nous recevions... Ça, vous le recevez, la prédication, je vous le dis, ça ne servira à rien. Mais si nous nous tenons devant Dieu, nous obtiendrons miséricorde. Regardez ce que Paul dit à Tite, au verset 14 du chapitre 3. Il faut, donc ça fait partie de ces choses nécessaires, c'est des impératifs. Il faut que les nôtres aussi apprennent, ça s'apprend, à pratiquer de bonnes œuvres. Pour subvenir aux besoins pressants, parce qu'il y a des besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Vous voyez, au verset 8, on le voit, c'est lancinant après cette parole certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ça s'apprend, vous voyez, si Dieu permet des besoins. Ce frère qui vient là, qui a besoin de 309 euros, moi, je suis persuadé que Dieu permet qu'il soit venu pour apprendre à des gens qui sont avares, qui ne donnent jamais, mais justement, des petites... Apprendre, il faut... Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Il faut que les nôtres, les chrétiens... Il y a des chrétiens qui ne donnent jamais. Ils sont dans un état de tristesse pas possible. Nous avons été créés pour apprendre à donner. Et peut-être un jour, vous aurez besoin d'aide aussi. Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Alors, il faut apprendre. Vous voyez, il y a deux situations complètement opposées. Une situation tout à fait petite, mais aux yeux de Dieu, c'est important. Tiens, j'ai jamais donné, je suis étudiant. Et bien, cette semaine, à la place d'acheter un McDo avec ma fleurie, machin et tout ça, et bien, je vais prendre que le simple sandwich. Et bien, je vais donner 1 ou 2 euros. Voilà. D'accord? Merci. Je sais que vous n'aimez pas McDo. J'ai compris. Mais, et une situation tout à l'heure urgente. Qui dépendra et qui peut être géré par cette Église, que Dieu soit béni, par rapport à un besoin urgent, archi-urgent. Nous, on ne le réalise pas parce qu'on est dans la grâce. Mais je peux vous dire que si nous avions nos enfants dans cette église en question, vous seriez archi heureux du conseil d'administration qu'on va avoir dans une demi-heure. Pourquoi ? Parce que la miséricorde génère la miséricorde. Et mes frères et sœurs, si vous me gardez comme pasteur, parce que je vieillis aussi, mais si vous me gardez, moi je voudrais qu'on voit dans l'église cette affaire-là, que nous soyons miséricordieux, droits, intègres, etc., équilibrés, avec le péché et tout ça, super sérieux, mais que notre cœur soit envahi de ce que seul Dieu peut nous donner, sa miséricorde. Sa miséricorde, elle coule. On l'a chanté. Hein ? On l'a chanté. Est-ce qu'on demande de l'aide au Seigneur ? On lui demande de l'aide ? Est-ce que Dieu pourrait être d'accord avec cette affaire ? On ferme les yeux un instant. Je m'adresse à tous les frères aînés, ou sœurs aînées, parce qu'il y en a des sœurs aussi. On va être sérieux. Vous savez, où vous jouez le jeu du docteur de la loi, tout le temps en train de vous justifier. Oui, je suis en colère, mais c'est normal, moi j'aime l'œuvre de Dieu, ta-ta-ti-ta-ta-ta, moi je suis en colère, mais les gens ils prient pas. Mais écoutez, restez dans votre misère, mais je m'adresse à ceux qui sont honnêtes. À ceux qui, simplement, comprennent qu'il y a quelque chose qui vient que de Dieu. La grâce, bien sûr, la miséricorde. Même si je n'obtiens pas miséricorde de suite, je ne vais pas m'énerver. Mes frères et sœurs, est-ce que cette prédication était pour toi ? Est-ce que tu dis, mais Seigneur, en plus, moi, je ne sens pas du tout un esprit de culpabilité ? Moi, je sens, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, au travers de ce sermon, moi, je sens que Dieu veut nous aider. Moi, je ne le vois que comme ça. Si quelqu'un me dit à la sortie, Monsieur Gault, vous m'avez culpabilisé, eh bien, écoutez, réfléchissez un peu plus. Mais moi, je perçois dans le cœur de Dieu qu'il va nous aider. Alors, on va lui répondre. Je vais prier. Si vous êtes d'accord, parce que je vais demander à Dieu qu'il nous aide à rester dans sa présence, parce que les ruisseaux de Dieu sont pleins. Le don spirituel, vous l'avez... Écoutez, moi, il m'a donné des frissons, ce don. Je sais que du trône de la grâce, elle coule, cette grâce. Vous pouvez être riche selon la parole, riche spirituellement. Alors, demandons-lui de l'aide. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci d'avoir laissé toutes ces instructions qui nous permettent tout simplement de comprendre et d'apprendre. Apprends-nous la miséricorde, Seigneur. Apprends-nous-la. Dans ta présence, dans le trône de la grâce, dans notre chambre, dans notre bureau, ou n'importe, Seigneur, qu'importe. Mais apprends-nous la miséricorde. Afin que lorsque nous aurons la joie de comparaître devant ta face, nous réalisions que nous obtiendrons miséricorde, parce que nous aurons su être justes dans notre attitude. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.